Les prisonniers du dortoir. À partir de maintenant, il va falloir jouer serré, marmonna Tinky Pinky. Le programme de la mission est le suivant. Nous devons nous introduire dans la banque des rêves pour fracturer le coffre contenant les souvenirs que ton oncle a volés dans ta tête. Tu comprends ? Oui, je crois, soupira Elodie. Ces souvenirs nous indiqueront où sont détenus tes vrais parents. Cela nous permettra de les libérer. Aussitôt, le peuple se soulèvera contre l'usurpateur Boromidas. Présenté de cette manière, ça paraît bien, fit l'adolescente. Mais je suppose que ce ne sera pas aussi facile. Pas du tout, grogna le lapin rose. Ce sera même très dangereux. Pendant que la charrette roulait à travers la campagne, Élodie remarqua que des groupes d'enfants se rassemblaient autour des puits, des fontaines. Agglutinés au coude à coude sur le pourtour des margelles, ils se bousculaient pour regarder dans l'eau. « Que font-ils ?» s'enquit la jeune fille. « Le mieux est que tu vois ça par toi-même, » soupira Tinky Pinky en arrêtant la carriole. Élodie se dirigea vers l'un des puits et se fraya un chemin au milieu des marmots. « Que regardez-vous » demanda-t-elle. « Un film d'horreur !» répondit l'un des gosses. « C'est vraiment affreux !» Après avoir longtemps bataillé, la jeune fille réussit enfin à s'accouder à la margelle. Lorsqu'elle regarda en bas, elle vit que de l'eau stagnante reflétait des images venues d'ailleurs. On y voyait une rue, une école, des élèves se rendant en classe. « Mais ce sont des scènes provenant de la réalité, » s'étonna-t-elle. « Je reconnais mon collège. »« Bien sûr, » fit Tinky Winky. « Tous les points d'eau fonctionnent comme des téléviseurs. Quand on regarde au fond, on voit des bouts du monde réel. C'est comme un trou de serrure permettant d'espionner ce qui se passe dans la pièce voisine. Chez nous, la plupart des gens trouvent ces spectacles particulièrement déprimants. Au même moment, les gosses massés autour du puits poussèrent des cris de protestation. Ils venaient de découvrir la vie des enfants du réel, condamnés à se rendre à l'école pour y demeurer de longues heures durant, immobiles sous la surveillance d'un professeur aussi ennuyeux que désagréable. « Quelle horreur » criait-il. « On ne supporterait jamais ça. Quelle chance nous avons de vivre au royaume des songes !» Élodie s'éloigna. Tinky Pinky la prit par la main et la ramena à la charrette. « Ne perdons pas de temps, grommela-t-il. Prépare-toi plutôt à voir des choses qui défient l'imagination. « Nous allons attaquer la banque ?» interrogea la jeune fille, guère rassurée. « Non, nous n'aurions aucune chance de réussir. Pour entrer dans la place, il faudra avoir recours à la ruse. Dans un premier temps, nous allons nous faire engager comme de simples serviteurs. C'est un métier dangereux. On s'y fait souvent couper la tête. Voilà pourquoi les banquiers ont sans cesse besoin de personnel. » Une heure plus tard, Tinky Pinky cacha la carriole dans un bois et l'abandonna à ses frères, en leur faisant 1000 recommandations. Après quoi, il prit la direction d'un hameau au toit de chaume, Élodie sur ses talons. Tous deux s'étaient habillés de guenilles crasseuses pour donner le change. L'adolescente, la figure barbouillée de terre, avait l'air d'une souillon. « Où allons-nous » demanda-t-elle. « Rejoindre l'armée de ton oncle, » annonça sinistrement le lapin. « Du moins, une des patrouilles qui écument les campagnes à la recherche de jeunes rêveurs. « Je n'y comprends rien, explique-toi. » Certains enfants ont un don. Quand ils dorment, ils rêvent. Ce qui est très rare dans notre monde. Lorsque leurs rêves sont agréables, ils produisent des pièces d'or qu'on retrouve sous leur oreiller à leur réveil. D'où viennent-elles ? Elles leur sortent de la bouche pendant leur sommeil. Ce prodige intéresse tout particulièrement ton oncle Boromidas. Il achète les enfants à leurs parents et les enferme dans une forteresse dortoir où il les condamne à rêver. De cette manière, il s'enrichit. Il ramasse les pièces d'or, les fond en lingots et se constitue une fortune qui lui permettra de vivre comme un roi si un jour prochain il est chassé du pouvoir et doit s'enfuir dans le monde réel. Là-bas, on ne paie pas avec des papillons. C'est affreux, s'indigna Élodie. Et les parents acceptent de vendre leurs enfants? S'ils refusent, on leur coupe la tête. Et on prend tout de même le gosse. Nous allons nous faire engager en tant que serviteurs des jeunes dormeurs. Cela nous introduira dans la forteresse. Une fois dans la place, nous aviserons. Le lapin se tut, car un groupe de soldats en armure venait de surgir au détour d'un chemin. Ils étaient montés sur de grandes bicyclettes rouges. Le phare fixé sur le garde-boue avait la forme d'une tête de lion. Les hommes d'armes pédalaient avec ardeur, ce qui faisait s'entrechoquer les pièces de métal de leurs costumes de guerre et produisait un épouvantable vacarme. « Voilà les hommes de ton oncle, » chuchota le lapin. « Ne les regarde jamais dans les yeux. Ils sont cruels. Suivons-les. Je pense qu'ils vont rejoindre l'avant-garde de la troupe qui visite les villages. » Élodie s'appliqua à prendre un air humble. Dès qu'elle entra dans le hameau, elle put vérifier que Tinkinpinky n'avait pas menti. Les soldats perquisitionnaient dans les chaumières, rudoyant les paysans. « Ne racontez pas d'histoire !» hurla celui qui semblait les commander. Un homme au visage maigre, agrémenté d'une barbiche effilée, si noire qu'on eût dit un pinceau trempé dans de l'encre de Chine. « Nous savons qu'un enfant rêveur se cache ici. Si vous refusez de nous le livrer, nous brûlerons vos maisons, nous saupoudrerons la terre d'un produit qui tuera les arbres utiles. Plus rien ne repoussera jamais ici. » Les villageois paraissaient effrayés. Leur chef, un vieillard aux jambes tremblantes, finit par désigner l'une des bicoques. D'une voix honteuse, il chevrota. « Le petit Yannick, c'est lui qui rêve. » Ses parents gardent dans un coffre les pièces d'or qu'il trouve chaque matin sous son oreiller. « C'est un gentil garçon. Il ne faut pas lui faire de mal. » « Qui parle de le maltraiter ?» ricana le barbichu vêtu de fer. « Nous allons le dorloter au contraire, le bercer nuit et jour pour qu'il ne se réveille jamais et continue à produire de belles pièces d'or qui enrichiront Borobinas, notre roi bien-aimé. » Se détournant du vieux bonhomme, le chevalier s'avança vers la maison désignée et frappa sur la porte de son poing recouvert d'acier. « Holà, braves gens » hurla-t-il en exhibant des dents de loup. « Réveillez-vous, c'est aujourd'hui votre jour de chance. » Le roi Boromidas, notre gentil souverain, vous fait l'immense honneur de vous acheter votre fils Yannick. Ce doux enfant aura désormais la joie de rêver directement pour le compte du roi. Pour vous dédommager de sa perte, je vous remettrai deux bocaux de papillons bleus. Maintenant, ouvrez! Ma patience est à bout. En me condamnant à attendre votre bon vouloir, vous faites affront à un noble serviteur du roi. Il pourrait vous en cuire. » La porte pivota enfin. Un homme et une femme parurent sur le seuil en larmes. La mère se tordait les mains. Le chevalier la saisit par les épaules et l'embrassa sur les deux joues. « Tu as de la chance, bonne femme, » lança-t-il en riant de façon démoniaque. « Ton fils ne sera pas réduit à mener une existence aussi lamentable que la tienne. À partir d'aujourd'hui, le voilà, rêveur du roi. Un titre que beaucoup lui envieront. Il vivra dans un palais et sera entouré de serviteurs qui lui prodigueront 1000 soins. » Sans laisser à la pauvre femme le temps de protester, le chevalier l'écarta d'une bourrade et entra dans la chaumière. 30 secondes plus tard, il en ressortait, tirant par la main un garçonnet d'une dizaine d'années aux cheveux bouclés. L'enfant, très pâle, retenait ses sanglots à grand-peine. Le guerrier le poussa vers un chariot arrêté sur la place du village. Une voiture de fer, aux fenêtres grillagées, tirée par des chevaux noirs. D'un signe, l'homme en armure ordonna à l'un de ses soldats de jeter deux bocaux de papillons bleus aux pieds des parents qui se cramponnaient l'un à l'autre. « Vous voilà riche !» hurla-t-il en enfourchant son grand vélo rouge. Ne regrettez rien. Il aurait été malheureux ici, dans ce village de mendiants. » Comprenant que le convoi allait se mettre en marche, Tinkinpinky courut vers le chevalier. « Seigneur » implora-t-il en s'inclinant devant la bicyclette couleur de sang frais. « Vous nous feriez un immense honneur en nous engageant, mon ami et moi, comme serviteurs du jeune rêveur. »
« D'accord, » fit le guerrier d'un air distrait.
« Grimpe dans la voiture et occupe-toi du marmot. Je ne veux pas l'entendre pleurnicher pendant le trajet. Cela déprime les chevaux. » « Merci, votre honneur, » bégaya Tinkinpinky en se roulant dans la poussière. « C'est trop de bonté. » Élodie trouva qu'il en faisait trop. Mais elle n'y connaissait pas grand-chose en matière de complot. Aussi se garda-t-elle d'exprimer sa désapprobation quand le lapin vint la chercher pour monter dans la carriole d'acier. Avant de refermer la porte, le chevalier leur cria. « Essayez de distraire ces moutards, ou sinon ils auront des cauchemars. Je veux qu'ils fassent de beaux rêves dès la première nuit, et qu'ils nous fabriquent des écus d'or bien brillants. Dans le cas contraire, je vous couperai moi-même la tête, compris ?» Élodie et le lapin aux oreilles tachetées se retrouvèrent plongés dans une pénombre oppressante. Des enfants se tenaient recroquevillés sur le sol. La plupart sanglotaient. Yannick se laissa tomber parmi eux et les imita aussitôt. « On est plutôt mal parti, » grogna Élodie. « Je crois qu'on peut dire adieu à nos têtes. C'était cela ton plan ?»« Ne sois pas défaitiste, » murmura Tinkinpinky. « Le chemin est long jusqu'à la forteresse. Rien n'est encore perdu. » Au même moment, la voiture se mit à rouler et Yannick pleura de plus belle. Bondissant sur ses pieds, il s'accrocha à la fenêtre grillagée pour tenter d'apercevoir une dernière fois ses parents. « Calme-toi, » lui dit le lapin. « Si tu m'écoutes, tu seras de retour chez toi d'ici peu. » Hélas, le gosse, tout à sa peine, ne lui prêta nullement attention. « Comment s'appelle le type en armure qui a l'air de commander ?» interrogea Élodie. « On le surnomme le baron d'acier, » murmura Tinkinpinky. « Personne ne connaît son vrai nom. C'est quelqu'un d'éminemment dangereux. Ne le sous-estime jamais, même s'il a l'air ridicule à pédaler sur son vélo rouge. Ses bicyclettes sont diaboliques. Elles se déplacent plus vite qu'un cheval au galop. » Le lapin s'assit au milieu des enfants et sortit de sa besace un paquet de biscuits de joie. « Ces gâteaux chassent la tristesse, » expliqua-t-il doucement. « On les fabrique avec de la farine de soleil et du sirop d'espoir. Ils permettront aux petits d'oublier leur malheur. De cette manière, nous avons une chance de conserver notre tête sur les épaules. » Élodie s'assit à côté de Yannick pendant que le lapin faisait circuler les biscuits. Peu à peu, les garçonnets cessèrent de pleurnicher. Certains commencèrent même à sourire et à chahuter. Une fois dans la forteresse, il faudra faire vite, reprit Tinkinpinky. Plus nous nous attarderons, plus nous courons le risque d'avoir la tête tranchée. Nous serons peut-être séparés. Quoi qu'il en soit, essaie de localiser l'endroit où est caché le coffre à souvenirs. Le voyage parut interminable à Élodie, qui sentait l'inquiétude grandir en elle. Pour un peu, elle aurait, elle aussi, grignoté un gâteau de joie. Mais elle jugea plus prudent de s'abstenir, cette euphorie artificielle risquant de troubler son jugement. La carriole de fer s'arrêta enfin et la porte fut déverrouillée. L'adolescente et le lapin sautèrent sur le sol. Ils se trouvaient dans la cour intérieure d'un immense château de pierre grise, plutôt rébarbatif. Il y avait des gardes en armure à tous les créneaux et certains portaient des haches aussi grandes qu'eux. « Oh, je n'aime pas du tout ça !» songea Élodie en essayant de se faire toute petite. Un homme chauve, habillé de cuir rouge, à la bouche édentée et aux mains énormes, s'avança vers les nouveaux arrivants. « Je suis Bolbec, » grogna-t-il, « le chef des serviteurs. Vous devrez m'obéir au doigt et à l'œil sans réfléchir, sinon vous regretterez d'être venu au monde. Suivez-moi. » Encore sous l'effet des biscuits, les gosses lui emboîtèrent le pas en pouffant. Même Yannick riait aux anges. Bolbec émit un ricanement et se tourna vers la jeune fille et le lapin.
C'est bien ça, fit-il d'un ton appréciateur. Vous êtes des malins, vous deux. Vous avez drogué les marmots pour vous faciliter le travail. Vous avez tout compris. Je crois que nous allons nous entendre. Ça me changera des serviteurs incompétents auxquels je dois couper la tête au bout d'une semaine. » Élodie trouvait fort désagréable d'être considérée comme une canaille. Mais ce n'était guère le moment de protester. Aussi s'obligea-t-elle à ricaner de manière déplaisante. « Je vais rapidement vous expliquer les règles du jeu, » déclara Bolbec. « Inutile de finasser plus longtemps. Ces mioches ne ressortiront jamais de la forteresse. Dès qu'ils seront installés chacun sur son lit, on les forcera à absorber un breuvage qui les fera dormir et rêver. Votre travail consistera à les obliger à boire cette potion chaque fois qu'ils feront mine de se réveiller. De cette manière, ils dormiront nuit et jour pendant des années et des années sans jamais voir la lumière du jour. À chaque rêve qu'ils feront, une pièce d'or leur sortira de la bouche comme un œuf du derrière d'une poule. On vous donnera un écu chaque fois que vous en aurez ramassé 100. Vous avez donc intérêt à ce que les dormeurs ne s'éveillent jamais et rêvent le plus possible. Suis-je assez clair ? Oh oui ! S'exclamèrent d'une même voix Élodie et Tinky Winky. On dit oui, maître Bolbec, grogna le géant. Oui, maître Bolbec, récitèrent les deux amis.
Parfait, grommela le bourreau vêtu de cuir rouge. Maintenant visitons les installations. Retenez bien ce que je vais vous expliquer, car je ne répète jamais deux fois de suite la même leçon. Je ne suis pas un perroquet. Il ouvrit une porte de bois clouté, révélant un immense dortoir au lit superposé. Élodie retint son souffle. Il y avait là des centaines et des centaines d'enfants endormis, tous vêtus de pyjamas gris. Certains ronflaient, d'autres suçaient leurs pouces, quelques-uns serraient contre eux un jouet en peluche tout usé. Des serviteurs circulaient dans les allées, un pichet et une timbale à la main. Dès que l'un des jeunes dormeurs s'agitait et commençait à s'éveiller, il se précipitait à son chevet et lui faisait absorber une gorgée de potion.
Comment les nourrit-on ? Interrogea Tinky Winky d'un ton professionnel, comme si la vue de ce dortoir prison ne lui faisait ni chaud ni froid. Tout a été prévu, répondit Bolbec. On dissout des comprimés de nourriture concentrée dans la mixture, et le tour est joué. Sous la conduite du géant, ils s'engagèrent dans une allée. Élodie ébahie regardait, de droite et de gauche, les enfants prisonniers du sommeil. Certains étaient entourés de pièces d'or scintillantes. « Les voilà, les beaux écus du rêve !» grogna Bolbec avec satisfaction. À chaque rêve agréable, une belle pièce toute lisse d'or pur. Il vous faudra les collecter comme une fermière fait le tour des poulaillers pour ramasser les œufs. N'essayez pas d'en voler, ce serait idiot. Je suis capable de renifler l'odeur de l'or à 100 mètres à la ronde. Même s'il vous prenait l'idée d'avaler une pièce, je la sentirai du fond de votre estomac et je m'empresserai de vous couper en deux pour la récupérer. C'est encore arrivé la semaine dernière avec un serviteur trop stupide pour m'écouter. Je déteste éventrer les gens, c'est affreusement salissant. Ça me force à me laver et à changer de vêtements. » Élodie et Tinky Winky hochèrent docilement la tête. L'adolescente commençait à se demander dans quel guêpier elle s'était fourrée. La salle semblait abriter une armée de rêveurs. Certains étaient là depuis si longtemps qu'ils avaient grandi. Ce n'étaient plus des enfants. Quelques-uns avaient même de la barbe au menton et du poil aux jambes. « Mince !» souffla le lapin. « Ils sont ici depuis combien de temps ?»« 10 années, » répondit le géant. « Ce sont de bons rêveurs. Il leur arrive de cracher 6 pièces d'or par jour. » À cet instant, Élodie remarqua que les murs étaient tapissés de gros matelas pour étouffer les bruits de l'extérieur et que Bolbec parlait en chuchotant. La règle numéro 1 consiste à ne jamais réveiller un rêveur en faisant tomber quelque chose par terre, énonça le bourreau d'un ton menaçant. Un dormeur dérangé dans son sommeil fait des cauchemars.
Les cauchemars ne produisent pas de pièces d'or. Ils fabriquent des serpents noirs venimeux qui se faufilent sous les lits. Si l'un d'entre vous est piqué par l'une de ces sales bestioles, il deviendra si triste qu'il pleurera jusqu'à ce que sa figure fonde comme un suc trempé dans du café chaud. Élodie sentit la chair de poule lui hérisser le dos. La règle numéro 2 consiste à tout organiser pour que les dormeurs fassent des rêves agréables, continua le géant. Il faut donc veiller à la qualité de l'environnement en vaporisant des parfums dans le dortoir et en chantant de douces berceuses. Le chef d'équipe vous donnera un recueil de chansons que vous devrez apprendre par cœur cette nuit. Chacun d'entre vous se verra attribuer un troupeau de rêveurs sur lequel il devra tout particulièrement veiller. Si les choses se passent mal, vous serez puni ou décapité. Je ne tolérerai aucune erreur. Mettez-vous bien ça dans la tête, tant que vous en avez encore une. Élodie et Tinky Binky se virent remettre l'uniforme et l'équipement des serviteurs préposés au grand dortoir. Cette panoplie comportait une blouse grise, de grosses pantoufles à semelles de feutre, un pichet de porcelaine et sa timbale pour la potion endormante, une tirelire pour la collecte des pièces d'or, une pince à long manche et un panier d'osier pour le ramassage des serpents noirs du cauchemar. Ils n'eurent pas le temps d'échanger leurs impressions, car on les sépara pour les affecter à des secteurs diamétralement opposés. Élodie se retrouva placée sous l'autorité d'une grande fille sèche aux cheveux verts nattés. « Salut, chuchota-t-elle. Je m'appelle Nathalie. Je suis ici depuis 6 mois et j'ai toujours ma tête sur les épaules. Comme tu peux le constater, c'est un record. J'espère que tu ne feras pas d'ânerie, car je suis responsable de toi. Ne te fais pas d'illusions, je ne te pardonnerai aucune erreur. Ici, c'est chacun pour soi. » « D'accord, j'ai compris, » souffla Élodie en retroussant les manches de la blouse qui lui couvrait les doigts. Le premier truc à savoir, haleta la fille aux nattes vertes, c'est qu'il ne faut jamais faire tomber les pièces d'or par terre. En rebondissant, elles produisent un son aigu qui vrille les oreilles et s'enfonce dans la tête des dormeurs comme la pointe d'un tire-bouchon. Bien évidemment, ça les réveille. Et c'est très mauvais pour toi. Bolbec a l'œil à tout. Rien ne lui échappe. Il notera tes fautes dans son carnet de punition et te présentera l'addition à la fin de la semaine. Nathalie entraîna Élodie dans la pièce réservée aux équipements. Des bonbonnes remplies de potions de sommeil s'alignaient au long des étagères. Les serviteurs allaient et venaient, rapides et silencieux, dans leurs grosses pantoufles. Si l'un de tes rêveurs fait mine de se réveiller, berce-le et chante-lui une chanson, chuchota Nathalie. Il est capital qu'il se rendorme le plus vite possible. Même chose si tu vois un gamin en train de s'agiter sur son lit. C'est qu'il est en train de faire un cauchemar. Tu devras intervenir avant qu'un serpent noir ne lui sorte de la bouche. Si cette sale bestiole te pique, tu es fichu. Tu pleureras tellement que tu finiras par te noyer dans tes larmes. Maintenant, tu en sais assez pour survivre à une première journée de travail. Prends ton pichet de potions et file dans la salle. Je ne suis pas là pour te dorloter. Élodie obéit. Le pichet d'élixir de sommeil à la main, elle entreprit de déambuler dans le secteur que venait de lui attribuer Nathalie. Il s'agissait d'un carré comprenant 40 lits superposés. Des garçons et des filles en pyjama gris y dormaient à poings fermés. L'adolescente estima qu'ils avaient entre 6 et 13 ans. Certains étaient là depuis si longtemps que leurs pyjamas étaient devenus beaucoup trop courts pour eux. Dans le monde du rêve, personne ne faisait jamais pipi ou caca, ce qui simplifiait considérablement les choses. Les WC n'existaient pas, c'était l'une des premières choses que lui avait appris Stinky Pinky. Aussi, le dortoir ne comportait-il aucun pot de chambre. Quant aux dormeurs, il ne risque pas d'être réveillé par une envie pressante. Au début, Élodie avait cru qu'un silence écrasant pesait sur la salle. Elle se rendait compte à présent qu'elle s'était trompée. Le souffle des respirations
finissait par former un vacarme feutré qui agaçait le tympan. Au détour d'une allée, elle découvrit Yannick et les gosses avec lesquels elle avait voyagé. Ils dormaient déjà. De temps à autre, l'un des enfants gémissait et crachait une pièce d'or brillante qui roulait sur le matelas. La jeune fille estima qu'elle aurait intérêt à les ramasser au fur et à mesure, car les enfants qui s'agitaient dans leur sommeil risquaient de les faire tomber du lit. Elle s'empressa donc d'aller chercher la tirelire sur laquelle était peint le numéro de son secteur et commença la collecte. Les écus d'or étaient enduits de bave, bien sûr, ce qui les rendait difficiles à saisir. Élodie faillit en laisser échapper un qu'elle rattrapa de justesse. « Ce ne sont pas des pièces d'or normales, constata-t-elle. Elles résonnent dès qu'on les touche, comme un verre en cristal dont on caresserait le bord. » Elle s'aperçut également qu'il était difficile de les laisser tomber dans la tirelire sans produire aussitôt un tintement strident. Elle dut apprendre à les manipuler avec délicatesse pour les empêcher de sonner. Car, à chaque nouvel écho, les jeunes dormeurs s'agitaient en gémissant. Quand elle eut terminé de ramasser tous les écus, Élodie était en sueur. Jamais elle n'aurait imaginé que ce serait aussi compliqué. Relevant le nez, elle vit Nathalie. De l'autre côté du dortoir, la fille aux tresses vertes la fixait d'un air ironique qui semblait signifier
« Toi, ma petite, tu ne feras pas la semaine. Prépare-toi à raccourcir d'une tête. »
Ce fut une journée de grande angoisse, car Élodie tremblait à l'idée de faire une nouvelle bêtise. Elle courait d'un lit à l'autre, berçant les enfants qui s'agitaient, leur chantonnant des refrains de son invention quand ils se mettaient à gémir parce qu'un cauchemar prenait forme dans leur tête. Par-dessus tout, elle avait très peur de voir un serpent noir jaillir de la bouche des rêveurs. Elle savait qu'elle ne serait pas assez habile pour l'attraper avec les longues pinces suspendues à sa ceinture. Elle aurait aimé que Tinky Pinky soit là pour la conseiller. Hélas, le lapin rose officiait à l'autre bout de la salle, et c'est à peine si elle distinguait de temps à autre le bout de ses oreilles tachetées. Lorsque le soir baissa, Nathalie lui ordonna d'aller porter le contenu de sa tirelire à Bolbec. « S'il est satisfait, expliqua-t-elle, il te laissera vivre jusqu'à demain, sinon... »« Tu as ramassé beaucoup de pièces, sans qui, Élodie ?»«
Pas mal, ouais, ricana la fille aux cheveux nattés. Moi, je sais m'occuper de mes rêveurs. Je connais les chansons qui leur plaisent, je me débrouille pour qu'ils se sentent bien et fassent de beaux rêves. Plus les rêves sont beaux, plus les pièces d'or sont épaisses. Tu ne le savais pas ? Je parie que les tiennes sont plus minces qu'une feuille de papier. Je t'ai observé.
Tu te débrouilles mal. Je ne serais pas étonnée que tes gamins crachent deux ou trois serpents noirs des deux mains. Tu te feras piquer avant la fin de la journée et l'on t'isolera dans la pièce aux mille mouchoirs pour que tu puisses pleurer tout ton sou. Tu fondras comme un suc. Quelle peste, songea Élodie. Tremblante, elle traversa la salle pour aller remettre sa tirelire à Bolbec. Le géant trônait sur une estrade, calé entre les bras d'un énorme fauteuil de pierre. Chaque fois qu'un serviteur s'inclinait devant lui, il s'emparait de sa tirelire, la vidait sur ses genoux et comptait les écus du rêve. Après quoi, il notait quelque chose dans son carnet de contrôle et congédiait le valet d'un signe de la main. Il disposait ensuite les pièces dans un grand coffre doublé de feutre rouge. Et cela, avec tant d'habileté qu'il parvenait à ne faire aucun bruit. Élodie se prit à envier sa dextérité. Quand ce fut son tour, elle rentra la tête dans les épaules, persuadée qu'on allait la lui couper. Dès qu'il eut vidé la tirelire, Bolbec grimaça. « Trop mince, grogna-t-il, beaucoup trop mince. Tes rêveurs sont agités, leurs songes peu agréables. » Si tu ne t'en occupes pas mieux, ils se mettront à cracher des pièces d'argent ou de cuivre, qui n'ont aucun intérêt pour notre souverain. Peut-être même baveront-ils de vulgaires rondelles de plomb ou d'étain. Tu dois les cajoler, les dorloter. Cette nuit, au lieu de dormir, va donc suivre les cours de chant qu'on dispense aux apprentis valets. Ainsi, tu auras une chance d'améliorer ton score,
et de rester en vie. Il saisit une des pièces d'or entre le pouce et l'index, l'éleva à la hauteur de ses yeux pour l'examiner à la lueur d'une chandelle. « Trop mince, » répéta-t-il. « Si je la pose sur ma langue, elle fondra comme un bonbon acidulé. Peux-tu parier ?» Joignant le geste à la parole, il se mit à sucer l'écu. Aussitôt, ses yeux s'illuminèrent, sa peau grise parcheminée devint lisse et rose. Une bizarre métamorphose s'opéra, et, l'espace d'un instant, il parut plus jeune et plus beau. Élodie recula d'un pas stupéfaite. « Tu as vu, ricana Bolpec. Étonnant, non ? C'est également à cela que sert l'or produit entre ces murs. On le mange comme un bonbon, comme une sucrerie. Les belles dames et les beaux messieurs de la noblesse en remplissent leurs drageoires. Ils ont l'habitude de grignoter 2 ou 3 écus par jour. Cela les rend plus beaux, plus jeunes, presque immortels. Tu ne le savais pas ? Pauvre souillon, va ! » Toujours ricanant, il choisit une pièce encore plus mince que celle qu'il venait d'avaler
et la jeta à l'adolescente.
« Mange-la, » ordonna-t-il. « De cette manière, tu comprendras l'importance de ton travail. Tu es là pour permettre au prince, au duc, au baron, de rester jeune et beau à jamais. »
Cette responsabilité devrait te remplir de fierté. Mange cette pièce et tu comprendras. Élodie glissa l'écu d'or entre ses lèvres et le déposa sur sa langue. Elle fut surprise de constater qu'il avait un goût de citron. Au début, elle crut qu'il ne fondrait jamais, puis elle sentit que la pièce commençait à se dissoudre sous l'effet de sa salive. Brusquement, elle eut le feu aux joues. Ce fut comme si ses pieds ne touchaient plus terre. Une joie étrange l'envahit, lui faisant tourner la tête. Elle se sentit plus forte, plus intelligente, plus belle aussi. Elle n'avait plus peur de rien, elle dominait le monde, tout était merveilleux. Désormais, la moindre croûte de pain rassis aurait un goût de tarte aux pommes. Puis, la bouffée délirante se dissipa et elle retomba dans ses pantoufles. Elle quitta le dortoir en titubant, poursuivie par les ricanements étouffés de Bolbec. Tinky Winky l'attendait dans le couloir. Il la saisit par le poignet et la secoua de toutes ses forces. « Ne recommence jamais ça !» lui ordonna-t-il. « C'est de cette manière que Bolbec s'attache les esclaves. Au bout d'un moment, on devient un croc et l'on ne peut plus s'en passer. » Boromidas a eu recours à ce stratagème pour empoisonner toute la noblesse. Voilà pourquoi les ducs, les princes ont trahi tes parents. Ils voulaient leur ration de pièces d'or quotidienne. Élodie s'ébroua. « D'accord, » souffla-t-elle, « il m'a eu par surprise. » Je ferai attention désormais. »
Ils n'eurent pas le temps d'en dire plus, car, déjà, une femme maigre aux yeux globuleux leur ordonna d'aller rejoindre les autres apprentis serviteurs dans la salle de chant. « Je suis maîtresse Symphonia, » annonça-t-elle, « votre professeur de berceuse. Je suis là pour vous enseigner les chansons qui forceront les dormeurs à faire des rêves agréables.
Attention! Ne prenez pas ce cours à la légère. Certaines de ces chansons sont si puissantes qu'elles peuvent provoquer la mort de celui qui les entend. Aussi est-il capital de savoir doser la puissance de son chant. Me fais-je bien comprendre ?
Vous voulez dire que ces chansons peuvent tuer les gens ? S'étonna Élodie.
Oui, fit la femme squelettique. Si on les chante trop longtemps, on passe du sommeil à la mort sans même s'en apercevoir. Le cœur bat de moins en moins vite, toutes les fonctions vitales ralentissent, et l'on finit par mourir dans une sorte d'engourdissement. « Mais qu'arrive-t-il au chanteur ? » interrogea un garçon en levant la main. « Il meurt aussi ?»«
Non, s'il s'arrête à temps, » affirma maîtresse Symphonia. Mais certains continuent à chanter en état somnambulique. Ils dorment debout, mais ils n'en ont pas conscience, et s'obstinent à fredonner comme des mécaniques déréglées. Si bien qu'ils finissent par mourir en même temps que le rêveur qu'ils avaient pour mission d'endormir. Un murmure effrayé parcourut la salle. La femme aux yeux globuleux ramena le silence en frappant ce pupitre avec une baguette de chef d'orchestre. « Si vous voulez survivre, vous avez intérêt à m'écouter, bande de petits crapauds malodorants, » vociféra-t-elle. « Ouvrez vos manuels à la page 5. je vais vous enseigner les rudiments du chant hypnotique. Si certains d'entre vous sentent qu'ils s'endorment, qu'ils arrêtent immédiatement de chanter et se bouchent les oreilles. Compris ? Élodie mourait de faim. En outre, elle avait mal aux pieds d'avoir déambulé tout le jour dans le dortoir. Elle n'avait guère envie d'apprendre à chanter des airs qui vous faisaient tomber dans le coma. Tinky Winky lui expédia un coup de coude dans les côtes pour la forcer à s'appliquer. Pendant 3 heures, il leur fallut annonner des vocalises apparemment absurdes qui tenaient le milieu entre le coassement de la grenouille et le glouglou de la bouteille qu'on vide dans l'évier. Élodie était trop fatiguée pour s'en amuser. Quand l'un des élèves tomba raide sur le sol, maîtresse Symphonia décida d'arrêter. On se pencha sur le malheureux. Il était mort, le sourire aux lèvres. Sa chanson l'avait tué. Voilà ce qui vous arrivera si vous ne savez pas vous arrêter à temps, gronda la femme maigre. Votre vie n'a guère d'importance à nos yeux, mais nous ne voulons à aucun prix que vous provoquiez la mort des rêveurs. Maintenant disparaissez. Je vous attends demain à la même heure. Vous aurez intérêt à vous appliquer. Je vous signale que je perds à peu près 3 élèves par cours. À vous de voir si vous voulez en faire partie. Les apprentis quittèrent la salle en traînant des pieds. La plupart bâillaient et avaient le plus grand mal à garder les yeux ouverts. « Ce sont les effets du chant hypnotique, » grommela Tinky Winky. « Ce truc est redoutable. » Un surveillant les mena au réfectoire où on leur servit une soupe grumeleuse de radis qui brillait dans le noir et qu'on utilisait parfois comme lampe de poche. « Super !» grogna l'un des garçons. Chaque fois qu'on ouvrira la bouche, de la lumière montera du fond de notre estomac. Le lapin expliqua qu'il s'agissait d'un légume très nourrissant mais assez fade. Pour sa part, il préférait les carottes. Le dîner expédié, les apprentis serviteurs furent conduits dans un dortoir rudimentaire où ils purent s'allonger sur des paillasses. Élodie s'endormit à peine couchée. Le lendemain, tout alla de travers.